Bonjour, je m'appelle Séverine et j'aimerais vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue à l'église évangélique de Meyrin ce matin, que vous soyez là pour la première fois, la dixième, la millième. J'ai même calculé pour mon grand-papa qui a 90 ans, ça pourrait faire 4680 fois. Mais je reste persuadée que le Seigneur ne compte pas le nombre de fois où nous venons, mais que son profond désir, c'est que nous cultivions une relation personnelle avec lui, intime, ici à l'église, mais surtout dans notre quotidien. Alors je vous invite maintenant à un petit moment de méditation, on aura une introduction musicale pour justement déposer un peu ce quotidien et nous mettre devant la présence du Seigneur. Bienvenue à vous, vous qui êtes là en présence physiquement et vous qui êtes là en ligne ou pour toutes les personnes qui regarderont en différé. Soyez bénis tout particulièrement ce matin. Merci à David d'avoir accepté de jouer pour nous ce matin, à Ashley et Thierry à la sono, à la technique, au groupe nettoyage qui vient durant la semaine, à Claire-Lise et Michel Sorex qui sont là pour tout ce qui est lié aux conditions sanitaires, à Denise pour les fleurs, au sonneur de cloche, je ne sais pas qui l'a fait, mais est-ce que c'est Jacques, je ne sais pas. Merci à toutes ces personnes qui permettent à ce culte de prendre forme. Et puis à Sylvain aussi qui nous apportera la prédication tout à l'heure. Mon rôle ce matin, c'est de l'accompagner dans le déroulement de ce culte et j'aimerais vraiment vous encourager, si vous ne l'avez jamais fait, à prendre une fois le rôle de présidence ou d'accompagnement parce que c'est toujours une très belle aventure où on est parfois un petit peu poussé à réfléchir sur des textes qu'on ne choisirait peut-être pas de premier abord mais qui nous emmènent toujours dans une aventure intéressante et on en ressort toujours grandi. Et puis, en plus, on apprend à mieux connaître nos confrères de l'Église. C'est vrai que j'ai passé quelques temps avec Sylvain et c'est toujours enrichissant. Alors, ce matin, Sylvain va nous apporter un message autour du passage dans Jean 13, où Jésus lave les pieds à ses disciples. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'aime bien les défis. J'aime bien mettre en pratique les choses que j'apprends. Puis en tant qu'enseignante et pédagogue, j'aime bien penser que c'est en faisant qu'on apprend, que c'est en faisant qu'on comprend et que parfois il faut mettre la main à la pâte. Alors peut-être que vous voyez un peu venir avec ce lavement des pieds. Et je vous avoue que vous êtes un peu sauvés par la situation Covid, parce que j'aurais vraiment voulu vous permettre de vivre ce moment de lavement de pieds. Pourquoi ? Ben pour avoir un aperçu réel de ce que ça pourrait représenter pour les disciples. Imaginez, vous êtes assis à table avec Jésus. Et tout à coup, il se lève et puis il commence un rituel un peu étonnant. Franchement, qui d'emblée dirait « Oui, vas-y Jésus, tu peux me laver les pieds ?» On aurait tous des excuses. « Non, non, Seigneur, moi j'ai les pieds sales. » Ou bien « Non, moi j'ai marché toute la journée. » Ou bien « Il pue. » Enfin... Et je ne sais pas si vous avez bénéficié une fois dans votre vie d'un massage ou de si quelqu'un vous a soigné particulièrement, mais cela demande un certain lâcher-prise. On entre dans une certaine intimité partagée. Et ce n'est pas toujours facile de se laisser toucher par quelqu'un, physiquement. Donc ce matin, nous ferons autrement. Il n'y aura pas de rituel de lavement des pieds. Mais je vous encourage à vous laisser toucher physiquement ce matin par Jésus. J'aimerais vous partager le témoignage d'une amie proche à mon cœur qui, justement, avait avoué qu'elle avait la phobie des pieds. Que ce soit des pieds de bébé, des pieds... ça la dégoûtait. Et lors d'un camp, elle a été invitée à participer à un rituel de lavement des pieds. Et tout angoissée, elle n'arrivait pas à imaginer ni à laisser quelqu'un lui laver les pieds, ni à le faire à quelqu'un. Et en fait, ça prenait tellement de place dans son cœur et dans sa tête qu'elle n'écoutait même plus l'orateur. Et tout à coup, elle a eu cette pensée et qu'elle a vraiment ressentie fort. C'était comme si Jésus lui disait « Mais pour pouvoir toucher ton cœur, il va falloir me laisser toucher tes pieds. » Et donc, elle a été prête à vivre ce moment qui a été très, très fort. Et puis cette phrase, elle me touche beaucoup parce que, en fait, on a parfois toutes sortes d'excuses pour éviter de s'exposer, éviter d'être vulnérable. Et pourtant, c'est dans cette vulnérabilité que le Seigneur peut œuvrer en nous. Vous avez reçu ce matin une paire d'empreintes de pieds sur vos chaises. Pour les personnes en ligne, vous pouvez déjà maintenant prendre une feuille de papier, soit dessiner votre empreinte sur la feuille, soit simplement garder une feuille de papier à disposition. Ces pieds, nous les utiliserons plus tard. C'est aussi pour garder un petit peu de suspense que je vous dis ça. Maintenant, je vous invite à un moment de méditation où David va jouer quelques chants que j'ai choisis pour ce matin. Les deux premiers sont plutôt pour entrer dans sa présence. Et il y aura un troisième chant qui sera projeté, je vous expliquerai aussi pourquoi je l'ai choisi. Alors même si on ne peut pas chanter à haute voix, je vous encourage vraiment à le faire de tout votre cœur en lisant les paroles. Le prochain et dernier chant pour ce moment, c'est le chant « Quand j'ai vu tes mains ». C'est un chant que je trouve très profond et poignant. Ces mêmes mains qui ont lavé les pieds des disciples sont les mains qui ont été clouées peu de temps après. Et ces mains qui ont servi sont des mains qui font partie d'un corps qui est mort pour nous. Donc je vous invite à méditer tout ça pendant ce prochain chant. Je vais vous lire le texte qui sert de base à la prédication de ce matin. Il se trouve dans Jean 13, les versets 1 à 17. Jean 13, versets 1 à 17. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il aimait les siens qui étaient dans le monde. Il les aima jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà fait germer dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'idée de livrer Jésus. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, que lui-même était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Il se lève de la table, ôte son vêtement de dessus et prend une serviette dont il s'entoure la taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il avait autour de la taille. Il arrive à Simon-Pierre, qui lui demande « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus continua « Si je ne te lave pas, tu ne partageras rien avec moi. » Simon-Pierre répliqua, « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus ajouta, « La personne qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car elle est entièrement propre. Vous êtes propre, vous, mais pas tous, cependant. » En effet, Jésus savait qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous propres. » Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison, car je le suis. » Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, tout comme un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique.
Voilà, bonjour à chacun qui est ici ou plus loin derrière un écran. Merci à Séverine qui nous a si bien mis dans le bain, peut-être c'est le cas de le dire, de ce texte. Il y a quelque temps, j'ai été accroché par un éditorial du Monde qui faisait allusion à un certain nombre d'affaires récentes d'abus sexuels et qui disait ceci, « Ces affaires montrent que les atteintes sexuelles font des ravages dans les deux sexes et dans tous les milieux sociaux. Elles montrent que leur point commun réside dans les rapports de domination, que celles-ci soient professionnelles, masculines, sociales ou familiales. » Ça m'a accroché parce que je me suis dit que ce rapport, cette racine dans les rapports de domination, ça correspond bien, ça résonne vraiment avec le message de la Bible. Et plusieurs textes me sont venus à l'esprit, et en particulier ce récit du lavement des pieds, raconté dans l'Évangile de Jean. Et puis, comme on est encore proche du temps pascal, je pense que c'est une bonne occasion de se plonger dans ce récit. J'ai terminé mes études en 1968. Je ne sais pas si cette année vous dit quelque chose, si cette date vous dit quelque chose. Il y a eu les événements de mai 68 qui ont bousculé beaucoup de choses dans la société. Alors, on peut y porter un regard très positif ou très négatif, suivant comment on s'y prend. Mais en tout cas, une chose, ça a été une contestation de la domination et de l'autorité. Alors, sans doute que j'ai aussi personnellement gardé un petit côté anarchiste ou rebelle, qui est un peu lié à cette époque. Voilà. Mais par ailleurs, j'ai aussi été prof. Puis quand on enseigne, On s'aperçoit vite que si on n'a pas l'autorité suffisante, c'est vite la foire dans une classe. Et puis d'ailleurs, ça ne rend pas service aux élèves et ils nous le reprochent. J'ai parfois appris un peu à mes dépens. Voilà, tout cela pour dire que peut-être que vous pourrez trouver certaines choses que je dis un peu biaisées. Voilà, c'est votre droit, mais l'important, c'est qu'on écoute le texte. Alors, je vous propose une petite méditation en trois étapes. Une première étape pour reparcourir un peu le texte, qu'on va reprendre dans un petit moment de Sainte-Seine, entre guillemets, après le message. Alors, on ne va pas tout étudier dans ce texte, hein, mais voilà. Et puis, le faire dans une deuxième étape, le faire résonner un petit peu avec d'autres textes dans la Bible. Et puis, dans une troisième étape, d'essayer de réfléchir ensemble sur ce qui nous dit dans nos relations humaines actuelles. Alors, on est avant la fête de la Pâque, nous dit le texte, celle que nous venons de célébrer il y a 15 jours. Jésus, sachant que son heure était venue. On est déjà dans ce temps un peu dramatique, un temps d'une certaine angoisse pour Jésus, mais peut-être encore d'insouciance pour ses disciples qui n'ont pas encore bien saisi où Jésus allait. Et on nous dit « Jésus aime les siens jusqu'à l'extrême ». C'est quoi l'extrême de l'amour, à votre avis ? C'est quoi l'extrême de l'amour ? Pardon ?
Faire tout pour ce qu'on aime.
Faire tout pour ce qu'on aime, oui. Mourir, oui. Et un peu plus loin, dans l'Évangile, il est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il les aime jusqu'à l'extrême en prenant un linge pour leur laver les pieds. Alors c'est quoi ? Au cours d'un repas, alors que Judas s'apprête à le trahir, sachant qu'il était venu de Dieu, qu'il retournait à Dieu, donc Jésus est dans sa mission, qu'il connaît bien, il retourne à Dieu par quel chemin ? Par un chemin qui va passer par la croix. Voilà que Jésus sort de table pour ce geste qui est vraiment incongru. Selon la note de la traduction œcuménique de la Bible, laver les pieds, c'était considéré comme une action humiliante qu'on ne pouvait même pas imposer à un esclave juif. Mais ça pouvait aussi être un signe de piété, la plus éminente, vis-à-vis d'un père ou d'un maître, mais évidemment dans le bon sens. Et là, Jésus renverse complètement les conventions sociales. Il bouscule toutes les hiérarchies admises. Et puis, le bouillant Pierre réagit au quart de tour, comme d'habitude. Lui, c'est plus ou moins le leader du groupe des disciples. À chaque coup, c'est le premier à réagir, soit pour s'enthousiasmer, soit pour s'offusquer, comme cette fois. Quand Jésus annonce sa mort, Pierre lui dit « Mais ce n'est pas possible, ça ne t'arrivera pas. » Quand Jésus veut lui laver les pieds, « Mais ce n'est pas toi qui vas me laver les pieds. » Un peu plus loin, quand Jésus essaye de l'avertir que le chemin va être difficile, qu'il ne pourra pas le suivre Jésus jusqu'au bout, il lui dit « Mais moi, je suis prêt à mourir pour toi. » Je pense à une petite anecdote qui est beaucoup plus insignifiante que l'histoire du lavement des pieds, mais quand j'étais au Laos, ma troisième année, je me suis offert pour aller comme prof dans un collège. Et puis j'ai un entretien avec le responsable délégué des étudiants, Puis je lui explique que j'habite au centre-ville, qu'il y a deux autres familles de la mission qui ont des voitures parce qu'elles habitent plus loin, puis que nous, on n'a pas de voiture, puis que l'école n'est pas loin, que je vais y aller à vélo. Alors, il a commencé à m'expliquer que c'était impossible qu'un prof aille en voiture à l'école. À vélo, je veux dire, oui, à vélo à l'école. Il trouvait ça totalement incongru. Voilà. Bon, ben, je suis quand même allé à vélo, hein, finalement. Mais voilà. Pour lui, c'était impensable. Alors, il y a ce surprenant échange avec Jésus qui dit à Pierre, « Si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas avoir part avec moi, tu ne partageras rien. » Et ce Pierre, toujours aussi bouillant, naturellement, maintenant, c'est le contraire. Alors, il faut me laver les mains et la tête. Et là, Jésus parle tout d'un coup sur un autre registre, pour évoquer à mot couvert qu'il y a un disciple qui va le trahir. Et il a aussi lavé les pieds, Jésus, à ce disciple qui va le trahir. Mais voilà, Pierre accepte. Lui, il a fait un bout de chemin, et puis comme Séverine nous disait, il s'est laissé toucher par Jésus. Bon, il aura encore du chemin à faire, hein, parce qu'il y aura encore le reniement un peu plus tard. Alors après le geste, Jésus vient à l'explication. Et je vais peut-être... Oui, je voulais relire le verset 17, je n'ai pas pris la feuille du texte. Tu peux me le repasser ? Vous m'appelez maître et seigneur, dit Jésus, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Tout comme un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Oui, nous faisons bien d'appeler Jésus Seigneur. Mais il m'arrive de me demander quelle image de Dieu on met derrière ce mot Seigneur. On a chanté un chant magnifique tout à l'heure. Jésus, roi, serviteur. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que parfois certains de nos chants, ce n'est pas tout à fait cette image de Dieu, du roi serviteur qui est valorisée. C'est un exemple que je vous donne, dit Jésus. Alors c'est vrai qu'il y a des communautés chrétiennes où on pratique ça comme... occasionnellement ou régulièrement, comme Séverine l'a raconté, moi ça m'est arrivé une fois, c'était en Israël, j'avais été dans un voyage avec mon frère, on a visité une communauté monastique féminine qui était juste à la frontière entre Palestine et Israël, et les Israéliens, qui travaillaient beaucoup pour la paix, Ils avaient un rite orthodoxe et puis en même temps un côté très évangélique et puis ils pratiquaient le lavement des pieds. C'était magnifique, ça a été magnifique. Mais effectivement, vous avez déjà été rassuré par Séverine. On ne vous fera pas le coup aujourd'hui. Mais l'exemple de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vraie grandeur est dans le service. Ça veut dire que l'idée d'un maître dominateur, qu'on a quand même souvent en arrière-plan dans notre pensée, elle est complètement renversée par Jésus. Et je pense que ce thème, il est en fait déjà très présent dans la Bible. Alors, où est-ce qu'il est question de domination dans la Bible ? Est-ce que vous avez une idée où on en parle la première fois ? Dans Genèse 3, oui. Alors, il y a déjà dans Genèse 1.
Il y a déjà dans Genèse 1. Alors c'est intéressant de voir les deux. Parce qu'au début de la Bible, la Genèse raconte l'histoire de la création, puis elle le fait avec deux récits qui sont très différents. Mais d'une manière qui est claire, de manière très actuelle, notre réalité humaine. Dans le premier récit, on a une création racontée dans une semaine de 6 jours, un magnifique poème. Hommes et femmes sont créés ensemble, en image de Dieu, sans aucune hiérarchie. La création est déclarée très bonne, et à cet homme et femme, Dieu les bénit et leur confie une mission. Il leur dit « Soyez féconds, remplissez la terre et dominez-la ». Alors c'est vrai que c'est un texte un petit peu problématique. Mais je pense qu'on a aussi compris cette domination tout à l'envers, en tout cas quand on y a vu un permis d'exploiter. Parce qu'ici, qu'est-ce qui se passe? L'homme a un rôle éminent à l'image de Dieu, mais à l'image d'un Dieu qui vient lui donner cette place, cette valeur, d'un Dieu qui est caractérisé par la justice, par la bienveillance, qui assure la paix, ce shalom en hébreu. C'est cette image de Dieu qui est là et à quoi l'homme est appelé à ressembler. En fait, la Genèse reprend beaucoup d'éléments des récits de création de l'Antiquité, mais en leur donnant un tout autre sens. Et d'ailleurs, cette paix, ce shalom, il est illustré par le fait qu'à la fin du récit, l'homme a un régime végétarien. Voilà, ce n'est pas forcément à prendre à la lettre, mais c'est une image de cette paix qui va avec cette domination. Donc ça dit quelque chose de très fort sur la relation avec la nature qu'on est appelé à avoir. Et une autre chose, c'est que dans ce récit, dans les autres récits, je veux dire, de parallèles de la création, souvent vous avez des dieux qui se bagarrent entre eux et qui créent des hommes, pourquoi? Pour les servir, pour être leurs esclaves. Ici, on est juste à l'envers. L'homme a une place éminente, mais pas la domination d'un exploiteur, la domination qui assure la paix. Alors, dans le deuxième récit, celui auquel Heidi faisait allusion tout à l'heure, effectivement, il y a une rupture profonde qui se passe dans les relations humaines. L'homme se laisse séduire par l'idée de devenir comme Dieu, mais déjà c'est l'image d'un Dieu dominateur qui vient. Et du coup, ce maître-là, on en a peur. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? La grossesse devient pénible. Le travail devient pénible et le mal devient dominateur. Donc, dans ce texte, en tout cas, tout ce qui est de l'ordre de la domination de l'homme sur la femme est décrit comme étant la conséquence ou une expression du péché, de la faute, de la perturbation des relations que Dieu voulait, harmonieuses. Alors, je ne sais pas si l'éditorialiste du Monde connaissait ces textes bibliques, mais je trouve que ça rejoint très fortement l'esprit de la Bible. Et puis, cette histoire de domination, elle continue à travers tout l'Ancien Testament. L'histoire des Juifs, elle s'enracine dans la sortie d'Égypte, un pays où ils étaient opprimés, exploité par un dictateur, dominateur et sanguinaire. Et puis plus tard, on voit que les Israélites, qui étaient des tribus un peu disparates, à un moment donné, ils commencent à avoir leur territoire et à vouloir s'assurer leur existence d'État, et ils veulent un roi comme les autres. Alors, le prophète, il les avertit que ça ne va pas être la joie, ce roi, il va prendre des soldats, il va réquisitionner des femmes, il va réquisitionner des terrains. Rien à faire, eux, ils veulent absolument leur roi. Et que se passe-t-il avec ces rois? Ben, la plupart du temps, ce qui avait été prédit, à savoir de l'exploitation des plus faibles. Et constamment, on a des prophètes qui rappellent la volonté de justice de Dieu, qui rappellent que les plus faibles doivent être protégés, qui rappellent que Dieu aime la justice. Et je trouve aussi que là, la Bible, elle est assez en contraste avec ce qu'on a non seulement dans beaucoup d'autres textes religieux, mais ce qu'on a dans nos livres, dans nos livres d'histoire à l'école. Nos livres d'histoire, ils ont tendance à assez glorifier les rois, les empereurs, les guerres qu'ils ont gagnées et tout ça. Et au contraire, la Bible s'intéresse aux petites gens, comme Philippe nous en a parlé une fois, hein, elle est constamment critique vis-à-vis des pouvoirs dominateurs. Donc, ces très vieux textes, finalement, ils sont comme un miroir de la société et de l'humanité actuelle. Et je pense que ce message, même ce texte du lavement des pieds, il est très pertinent, non seulement pour nos relations personnelles, mais même pour les relations sociales, politiques et économiques. Il faudrait y réfléchir. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu la Deuxième Guerre mondiale, qui a été peut-être le sommet de cette folie dominatrice humaine. On sait assez bien ce qui s'est passé en Europe. Moi, je pense à l'Asie, hein, parce que voilà, j'aime bien ce continent. C'est assez incroyable. Quand vous regardez une carte, vous voyez le Japon, cette petite île, qui rêve de dominer l'Asie entière. Déjà avant que commence la Deuxième Guerre mondiale ici, 2 ans avant, ils avaient déjà envahi la Chine entière, en 1937. Et puis, en parallèle à Hitler, ils ont étendu leur projet, hein, basé sur une idéologie très semblable à celle d'Hitler, tous les pays autour. Jusque Birmanie, Thaïlande, Vietnam, Malaisie, voilà. Voilà la folie dominatrice. Ben, aujourd'hui, on n'a pas ce même genre de domination, mais on a une société capitaliste qui fonctionne sur une concurrence et une compétition sans pitié, et qui prend des positions dominantes qui sont effectivement inquiétantes. Mais en fait, cette compétition, elle commence souvent déjà à l'école, quand on est enfant et entre jeunes, ou dans l'entourage professionnel. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui me semblent rêver d'être des vedettes. C'est assez présent, hein, sur les réseaux sociaux. Ou d'être des influenceurs et des influenceuses. Et moi, ça me donne des boutons, ces histoires d'influenceurs, parce que je trouve que c'est vraiment une perversion de cette communication qui est quelque part géniale, de ce qu'on peut communiquer aujourd'hui, mais ça, c'est vraiment perverti le système. Sans compter qu'ils sont payés pour faire des pubs, voilà. Alors, sans doute que la compétition, une certaine émulation, a aussi un côté positif. Dans la mesure où on se dit, parce que d'autres arrivent à faire quelque chose, moi aussi je peux le faire, je peux me dépasser, je peux y arriver, je peux m'améliorer. Ça, c'est le côté positif. Mais on est quand même souvent tenté d'avoir la tête qui dépasse les autres. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour essayer de dépasser les autres ? Sur la pointe des pieds. Il y en a qui ont la force physique. Hein, bon, ils s'imposent avec leur poing, avec leur force, avec leur bon. Il y en a d'autres qui sont un peu des gringalets, comme moi, en tout cas quand j'étais jeune. Voilà. Donc on cherche d'autres moyens, la parole, l'intellect, la réussite scolaire ou académique. Mais il y en a d'autres qui sont forts pour exploiter les sentiments, faire pression psychologiquement. Et parfois, dans les églises, on arrive à faire pression spirituellement. mais une pression spirituelle, pour moi, c'est le mot spirituel est déjà dévoyé dans ce cas-là. Puis ça peut aussi être par la séduction. D'ailleurs, la séduction est un énorme danger. C'est assez incroyable quand on voit à quel point beaucoup de chrétiens se sont laissés séduire par Hitler. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit cet exemple de Jésus ? Si je le résumais en deux mots, je dirais, Jésus nous dit que la vraie grandeur est dans le service et que la vraie grandeur, c'est de valoriser l'autre. Jésus, dans tout son ministère, il a guéri beaucoup de malades. Mais au-delà de la guérison physique et des miracles, ce qu'on voit, c'est qu'il mettait toujours la personne en valeur. Il dit au paralytique, lève-toi et marche. Pas seulement une guérison physique, c'est que dans sa vie, il est remis debout, il est remis en marche. Jésus nous remet debout quand on tombe. Jésus redonne une place à ce lépreux que personne n'osait toucher. Il redonne une place à une femme exclue de la communauté parce qu'elle avait des saignements, des pertes de sang. Donc être disciple de Jésus, c'est apprendre à vivre à sa suite en renonçant à cette tendance qu'on a en nous à dominer. Alors il ne s'agit absolument pas de s'écraser ou de se dévaloriser soi-même, mais de découvrir où est notre vraie valeur, qui est bien de vivre notre vie comme un service, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église, que ce soit au boulot, et d'être attentif à mettre constamment l'autre en valeur. Et être une église, c'est être une communauté d'apprentis. On apprend ensemble, on apprend en se frottant les uns aux autres aussi. Et c'est aussi pour cela que nous essayons de vivre notre vie d'église d'une manière collaborative, de manière très concrète, dans la manière d'organiser un conseil, dans la manière de répartir le travail dans des groupes, etc. Et c'est cette attitude-là qui doit aussi être la marque de notre service et de notre évangélisation, notre service dans la cité et dans nos lieux de vie. Alors que le Seigneur puisse nous inspirer par son exemple dans cet apprentissage permanent.
Je vous invite maintenant à un moment de prière à haute voix ou dans votre cœur pour faire résonner un peu ce qui a été dit ce matin. Seigneur, il est difficile pour moi parfois de me laisser approcher par les autres, de lâcher prise, de me laisser chouchouter. Et puis, il est aussi parfois difficile pour moi de servir l'autre, de le valoriser, surtout quand cette personne fait résonner en moi quelque chose qui me repousse. Et ce matin, Seigneur, tu nous encourages à nous mettre au service les uns des autres, à laver les pieds des autres, c'est-à-dire à accueillir les autres dans leur chemin de vie, qu'ils aient les pieds salis par la dureté de la vie, ou les pieds usés par une vie active, ou encore des pieds tout neufs. Seigneur, tu nous demandes de suivre ton exemple. Non pas de nous rabaisser, mais au contraire, de valoriser l'autre. Alors Seigneur, ma prière ce matin pour nous, pour moi, c'est que je puisse regarder ton exemple et tendre vers cela. Amen.
sachant aussi que tu me lis à une promesse de bonheur, puisque toi-même, nous serons heureux si nous suivons. Seigneur, sois nous en aide.
Aide-nous à croire à notre valeur propre, croire que ce n'est pas de l'orgueil, mais accueillir l'image que tu as de nous, qui est la vraie, la bonne image. Amen.
Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas, dans cette éducation de domination, notamment penser à tous ces peuples, ces hommes, ces femmes qui souffrent sous la domination, je pense spécialement à la Birmanie. Tous ces hommes, ces femmes qui souffrent sous des gouvernements, sous des autorités, des religions dominantes qui exigent, qui se pensent. Alors Seigneur Jésus, nous te prions pour notre monde et que ton règne de justice vienne. Bien sûr, sur notre terre, mais aussi dans nos cœurs, afin que nous soyons des hommes et des femmes prêts à servir. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
Seigneur Jésus, merci pour avoir donné un sens à nos vies. Sens de service, c'est vrai, Seigneur, mais aussi, Seigneur, combien il est joyeux et combien, Seigneur, tu nous donnes de la joie à être serviteurs les uns des autres. Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint, Seigneur, tu puisses nous donner des occasions, des opportunités, Seigneur, d'être à ton service, et Seigneur, de pouvoir répondre, de pouvoir cheminer avec le prochain, que ce soit au boulot, à la maison, ou je sais où. Seigneur, que nous puissions cheminer avec les personnes que nous côtoyons. Seigneur, merci parce que je sais, Seigneur, qu'il y a de la joie.
Amen. À la fin du chapitre 13 de Jean, Jésus parle du nouveau commandement qui est de nous aimer les uns les autres. Il le dit, hein, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ainsi vous devez vous aimer les uns les autres. Tous sauront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Et ça m'a frappé de voir qu'en fait, ce nouveau commandement qu'il donne, il le donne juste après avoir lavé les pieds de ses disciples. Je trouve que ça laisse à méditer. Sylvain, je te propose de venir pour notre sainte scène différente. On laisse le masque du coup, mais...
Alors vous aurez sans doute remarqué qu'on prend un peu toujours les mêmes textes pour la Sainte Cène. On n'a pas des masses. Et si je vous disais que ce récit, c'est la Sainte Cène selon Jean. Un petit peu avant le texte, Jean nous raconte, comme les autres évangiles, l'histoire d'une femme qui déverse du parfum. On a une prédication là-dessus récemment, hein, je ne sais pas quand c'était, mais il n'y a pas longtemps. Il nous parle de l'entrée à Jérusalem, c'est les rameaux. On est à la veille de Pâques. L'histoire se passe au cours du repas du soir. comme dans les récits de la Sainte Cène, des autres évangiles. Jésus annonce une trahison qui se prépare. Simplement, au lieu de prendre la coupe et le vin et le pain, Jésus prend un linge et un bassin d'eau et se met à laver les pieds de ses disciples. Et Jésus montre son amour extrême, évidente allusion à la croix, où il va donner sa vie pour nous, pour chacun de nous. On pourrait voir dans la croix comme une espèce de renonciation temporaire en attendant de retrouver un rôle de puissance par la résurrection. Moi, je vois plutôt à la croix la condamnation définitive de ce mal de la domination qui habite en nous, et la résurrection comme le signe que c'est bien l'exemple de vie de Jésus qui est le modèle et le chemin du salut. À la croix, nos péchés sont pardonnés. C'est une libération pour vivre autrement à la suite de Jésus, vraiment. La croix est unique dans le sens que seul Jésus a porté le péché du monde. Mais la croix, c'est aussi une manière de vivre que Jésus nous enseigne, de vivre nos relations à la suite de Jésus et à son exemple.
Alors c'est là que vos empreintes vont être utiles. Donc pour les personnes qui nous suivent en ligne, vous pouvez aussi prendre du papier. Vous avez donc devant vous deux empreintes. En fait, on va écrire dessus. J'aimerais vous proposer de vous laisser toucher les pieds par Jésus ce matin. Alors, sur l'une des empreintes, je vous propose d'écrire un remerciement à Jésus pour un domaine où, par exemple, une relation de domination a été compliquée pour vous et où vous avez vu Jésus agir. Donc ça, c'est sur l'une des deux empreintes. Si vous remémorez un moment où vous vous êtes dit, oui, là, humainement, ce n'était pas tout à fait possible et j'ai vu un renversement de cette relation humaine dans ma vie, un renversement de domination, enfin, où j'ai vu que le Seigneur a agi. Écrire permet de remémorer ce moment et de remercier le Seigneur pour cela.